Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Contournement, dans la 11e saison du podcast. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Papion, cofondateur de la société Énergie de Loire, et Adrien Cressin, consultant en automatisation et Airtable. Et on va ensemble faire un petit retour d'expérience sur tout ce qui a été fait justement chez Énergie de Loire autour du no-code. On va comprendre un petit peu les problématiques, à quoi ça a servi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Tu as eu l'occasion d'ailleurs de présenter ça au Web Today. C'est là où on a eu l'occasion de un petit peu se croiser. Alors pas nous tous les deux, Grégoire, mais j'ai croisé Adrien et puis Aymeric aussi qui m'avait beaucoup parlé de toi. Donc voilà, apparemment un très beau use case, vraiment cas d'usage. Pardon, je commençais avec les anglicismes alors que j'ai dit qu'il fallait pas en faire. Donc c'est cool, vraiment. C'est ce qu'on aime aussi, des épisodes comme ça, très concrets, avec des retours vraiment du terrain. Et puis voilà, d'avoir un petit peu vos deux perspectives là-dessus. Vous allez dire un petit peu chacun votre rôle dans cette histoire, si j'ose dire. Ce que je vous propose d'abord, pour commencer, savoir un petit peu d'où vous venez, c'est de vous présenter, peut-être Grégoire en premier.
Oui, donc Grégoire, hein, Papillon, tu l'as déjà dit. Donc moi, je suis fondateur d'Énergie de Loire, et puis avant ça, j'ai... un background, je suis plutôt ingénieur de formation, mais ingénieur ni informatique, plutôt technique. Et puis après, j'ai été salarié d'une société qui s'appelle Arco Energy sur le photovoltaïque, donc développement commercial. Et puis après, j'ai créé une structure qui s'appelle Énergie de Loire, qui est le support à notre échange aujourd'hui par rapport au no-code. Et je suis le fondateur et le président de cette structure aujourd'hui. Voilà, pour faire court.
Super. Adrien ?
Yes, Adrien Cressin, merci pour l'invite, Alexis. Donc moi, j'ai fait école de commerce à la base, et ensuite j'ai commencé ce qu'on fait après une école de commerce dans la grande distribution. J'ai fait 5 ans pour le groupe Auchan dans les achats. J'étais du Nord à la base, je suis du Nord à la base. Et ça m'a amené au bout de 5 ans à vouloir voir d'autres choses. J'ai déménagé en Guadeloupe. Je suis débarqué en Guadeloupe où j'ai fait 2 ans dans une PME en mode gestion de projet. J'ai un peu touché au digital, surtout à la présence en ligne. J'ai vu ce que j'avais fait sur la présence en ligne, ça m'avait bien plu. J'ai voulu monter une boîte. Donc j'ai monté une micro-agence digitale et ça m'a bien plu. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à automatiser des process, tout ça. Et je me suis rendu compte que automatiser le truc, c'est ça qui me faisait encore plus du plaisir. Et donc au fur et à mesure, voilà, je me suis lancé en tant que consultant automatisation et j'aide des PME à automatiser, à mettre en place Airtable et voilà où j'en suis aujourd'hui.
Comment t'as découvert les outils no-code, enfin, notamment Airtable, Zapier, Make, enfin, voilà, ceux que tu utilises?
Quand j'étais en Guadeloupe, je suis allé dans un coworking et c'est là où, super coworking, super mon endroit, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs vraiment au top et du coup, il y a eu une formation sur l'automatisation par le mec qui gérait le coworking, dédicace à Jordan. Et donc là, j'ai fait première formation, c'était du Airtable, et là, j'ai eu les yeux avec des étoiles.
Ok, trop bien. Juste pour revenir rapidement sur... déjà, je vais poser la question à Adrien. Pas du tout de background technique. Du coup, est-ce que tu avais fait un peu de code? Est-ce que tu avais fait un peu...
Geek dans l'âme quand même, genre je me souviens, tu vois, chez Auchan, c'était moi le master en Excel, je leur faisais des trucs bien compètes pour pouvoir lire toutes les chiffres qu'on avait et tout, donc pas de background vraiment dans l'éducation, mais geek et qui aime bien chercher. Je me souviens même, j'avais fait un site quand j'étais en troisième, on devait faire des exposés, moi mon exposé c'était un site internet et tout, je m'étais... Donc pas de background mais geek dans l'âme.
C'est marrant parce que ça c'est vraiment un trait commun quand même, hein, qui amène un peu... tu dirais pareil, Grégoire ?
Ouais, moi je suis convaincu, c'est un trait commun fort. Moi aussi j'étais... j'aimais bien Excel, je trifouillais Excel, j'ai jamais fait de code, mais c'est de dire, on a une problématique et on se rend compte que que les outils informatiques, au sens large, hein, le code est un support, mais peuvent nous aider à trouver des solutions seules, de manière autonome, donc ce qui est hyper puissant quand on est junior, hein, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une vision globale ou autre pour agir, et on a vite de l'impact, en fait. Donc il y a beaucoup de reconnaissance, en fait, quand tu fais ça et que tu aimes ça.
Est-ce que le... J'ai eu plusieurs, là, dans les épisodes récents, des gens qui venaient d'école d'ingénieurs. Donc ça y a l'air d'avoir aussi un... Est-ce que ce côté peut-être un peu ingénieur, il y a une... la conscience, peut-être la nécessité d'être bien outillé? Ou est-ce qu'il y a, je sais pas, ou est-ce qu'il y a un lien, tu dirais?
Je sais pas si ça, sans anticiper les sujets qu'on pourra discuter après, on est pas mal à utiliser le no-code aujourd'hui au sein d'Énergie de Loire. Pas tout le monde, on verra, mais enfin, pas tout le monde trifouille dedans, on va dire. Tout le monde utilise, pas tout le monde trifouille dedans. Et il y a quand même un trait commun, il y a un personnage commun qui est lié au no-code, qui sont quand même des gens qui aiment les problèmes. Et donc indirectement, qui j'en gagne problème, je pense que t'as un rebond avec des profils d'ingénieurs qui peut se faire assez. Donc c'est vrai que nous, chez nous, c'est beaucoup de gens qui sont plutôt profils techniques et qui aiment la résolution de problèmes. Qui ont basculé sur le no-code.
C'est marrant parce que ça fait écho vraiment à un de mes invités récents qui disait ça, ce côté ingénieur aimer résoudre des problèmes. Donc c'était vraiment. Écoute, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus pour poser le contexte de Énergie de Loire?
Oui. Énergie de Loire, c'est une société qui construit des centrales photovoltaïques. Alors, les panneaux photovoltaïques, on entend beaucoup parler en ce moment. Vous les voyez sur les toitures des particuliers. Nous, on fait principalement chez les professionnels. Donc, notre métier, hein, c'est ça va de vendre un projet, hein, donc au terrain, donc chez nos clients, de le dimensionner, hein, combien de câbles on met, combien de panneaux, combien de matériel électrique, de le faire installer, donc on sous-traite l'installation, et puis après, même de faire la maintenance de cette centrale. Donc, vraiment de A à Z, hein, en tout cas, on est là de A à Z sur un projet photovoltaïque, et à la fin, ce qu'on fait, hein, en interne, c'est beaucoup un métier d'études, d'ingénierie et de suivi de chantier, mais à la fin, ce qu'on fait, c'est du travail terrain, alors on le sous-traite, mais c'est à la fin, c'est des panneaux qui sont installés sur site. Hein.
Pour comprendre, moi, c'est un truc où je connais pas grand-chose, mais comme tu dis, on en entend beaucoup parler. Quand on a un particulier, est-ce qu'il y a... Quel est j'ai envie de dire, je vais poser la question un peu bêtement, on va dire, quel est l'intérêt de se faire installer des panneaux solaires? Et est-ce que tu vois ce côté central quand tu dis, enfin, est-ce que tu vois, c'est un truc où on peut commencer à produire de l'énergie, pas que pour soi, la revendre, enfin, c'est comment ça marche un petit peu tout ça un peu abstraire pour des gens qui sont un peu, qui connaissent pas comme moi, quoi.
Pour faire très court, le photovoltaïque au départ, ça fait depuis, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années que c'est vraiment lancé, et c'est surtout lancé par de la réglementation d'État qui fait que l'électricité produite, d'un point de vue contractuel, en fait, elle est revendue. On la revend à l'État via EDF. En fait, c'est ça, le cadre de départ. Donc, à chaque fois qu'on produit de l'électricité, sur la majorité des cas qu'on voit par le passé, c'est comme ça. Il se trouve qu'après, avec la crise ukrainienne et l'augmentation du prix de l'électricité, donc ça, je pense, tout le monde en est conscient, on a aussi beaucoup entendu parler, et des changements réglementaires, ben maintenant, en particulier sur le particulier, c'est plus ce modèle-là qui prédomine, et tant mieux, hein, parce que c'est le but aussi du photovoltaïque, c'est sa puissance, c'est d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit pour, en priorité, réduire sa facture d'électricité, l'énergie qu'on vient prendre sur le réseau. Et donc ça, c'est aujourd'hui la majorité des nouveaux projets, en particulier dans le particulier, justement, c'est un peu redondant, mais c'est le cas, mais en fait, on autoconsomme l'électricité, et le surplus qui est en trop, soit c'est revendu, soit c'est remis sur le réseau, derrière. Mais vraiment, on peut effacer la facture, donc oui, moi je suis, ça fait, je sais plus, 13, 14 ans que je suis dans le photovoltaïque, donc je suis très convaincu de cette énergie.
Chez toi, t'as des panneaux solaires?
Je vais installer chez moi, je viens de construire ma maison, donc oui, c'est prévu, ouais.
Ouais, ça c'est quand même bon. Déjà, quand on a un appartement, c'est plus compliqué, quoi. Enfin,
c'est... Légèrement.
Il commence à faire des systèmes à plugger sur le balcon, à brancher sur une prise. Voilà. Il commence à
avoir des systèmes. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, il y a une boîte qui est à Nantes, non?
Tu as BIM, une start-up qui s'appelle BIM, ouais, qui fait ça à Nantes et qui est de plus en plus connue parce qu'elle distribue aussi sur des grandes chaînes maintenant de bricolage. Je crois.
Et c'est vraiment.
C'était au No-Code Summit.
Ouais, c'est ça. Il y a eu une présentation. Je me souviens plus comment s'appelle cet entrepreneur. Là, c'est un Américain. C'est ça, qui a un startup studio.
Je vais te dire une bêtise.
Ouais, bon, ouais, les gens iront chercher. Non, mais il était invité, je crois, il n'y a pas très longtemps sur Génération Do It Yourself. Et ça avait l'air effectivement intéressant. D'ailleurs, il y a un truc, peut-être tu vas pouvoir m'expliquer, que j'arrivais pas à comprendre. Il disait que, désolé, hein, là j'en profite pour, mais j'aime bien des fois, je profite, tu vois, pour comprendre des trucs qui n'ont rien à voir avec le no-code. Mais parce que donc il disait, donc c'est des panneaux solaires que tu fixes sur ton mur, je crois, ou un truc comme ça.
Oui.
Vraiment en mode particulier, et tu branches sur le secteur.
Oui.
Et en fait, c'est tout. Parce qu'en fait, je sais pas, moi, dans ma tête, de mec qui connaît rien, pourtant j'ai fait des études quand même scientifiques, mais le secteur, c'est le courant, il vient pour allumer mon ordi, quoi. Mais ça va dans l'autre sens, en fait, aussi.
Ben là, ça va dans l'autre sens. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui n'existaient pas trop avant. C'est depuis qu'on essaye d'avoir des petits modules. Mais typiquement, moi, les centrales que je fais, c'est pas du tout comme ça. Je me branche sur le tableau électrique ou ouais. Directement au point de livraison. Et je me branche pas sur la prise électrique parce qu'on a beaucoup plus de puissance à amener. Mais oui, totalement, ouais.
Donc, de fait, quand tu branches, bah, ça, enfin, eux, en tout cas, leur truc, ça alimente, ça contribue à alimenter ton réseau.
Écoute. Ouais. A priori, je t'avouerai que j'ai jamais trop creusé, et moi je suis pas, alors je suis le profil ingé, mais je suis pas le profil élec, donc moi je suis okay. Le photovoltaïque. Donc en fait, je vais te dire pareil, une bêtise en disant précisément comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne à chaque fois, et c'est juste naturel, ou est-ce qu'il faut faire une petite adaptation, ou une prise secteur spécifique, je saurais pas te répondre, c'est mon associé qui saurait mieux te répondre que moi là-dessus. Ouais.
Ok, bon, écoute, c'était vraiment, j'en profitais, mais bon, c'est une vraie bonne digression dès le début qui n'a vraiment pas de rapport. Mais justement, revenons peut-être au sujet un petit peu du no-code. Déjà, juste très rapidement, depuis combien de temps ça existe? Combien de personnes vous êtes dans la boîte?
Alors, Énergie de Loire, ça existe maintenant depuis un peu plus de 5 ans. On est presque 80 personnes sur Énergie de Loire. Donc, ça a grossi très vite, surtout dernièrement. Et puis voilà, on travaille Pays de la Loire-Bretagne, donc on a un secteur assez restreint. Mais par contre, pour te parler un peu de projet, parce que ça permet de faire le pendant avec la problématique, faut imaginer que nous aujourd'hui, on doit gérer 300 projets en parallèle. Alors, c'est ça l'enjeu, nous qu'on a derrière, c'est qu'on a 300 centrales à construire en parallèle. Alors c'est pas qu'on est en mode construction, la maturité des projets est différente. Il y a des projets qui sont juste des projets signés. Il y en a d'autres, on est en train de faire le dimensionnement électrique avant de l'installer. Il y en a d'autres qui sont en phase chantier. Mais on a toujours ce portefeuille qui est important de projets et qui grossit, hein, de par la croissance de marché, on va bien entendu parler, et la croissance de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Beaucoup de projets à gérer en parallèle. L'autre point, vu qu'on est présent de A à Z, on n'est pas... si je caricature, on n'est pas en train de dire nous ce qu'on génère, je fais une plateforme de lead, ça fait le parallèle avec d'autres sujets connus qu'on va parler tout à l'heure, où t'as peut-être, je dis une bêtise, 1000-2000 contacts, t'as beaucoup plus de contacts entrants, mais t'as très peu d'étapes après dans ton process. Nous finalement on a 300 projets, mais on a le process global qui est très complexe en fait, pour aller d'un projet où on ne sait pas ce qu'on va faire à un projet où on a des électrons qui sont injectés sur le réseau, on a tout installé. Il y a beaucoup beaucoup d'étapes, et ça génère beaucoup d'interactions en interne et en externe.
Est-ce que tu veux donner juste quelques étapes pour qu'on comprenne un petit peu le flux,
bien sûr.
Pas dans le détail, parce que
non, mais
en avoir beaucoup.
Non, mais les étapes qu'il faut comprendre, c'est sur une centrale photovoltaïque, celle qu'on fait, notre taille, hein, je ne parle pas l'exemple qu'on donnait avant d'un panneau qu'on branche, où là, on ne dit rien à personne, on le branche, ça fonctionne très bien. L'étape, il y a l'étape commerciale, hein, de signer un projet et de faire le dimensionnement en avant-vente. Hein, faut déjà qu'on ait une idée qu'est-ce qu'on vend, combien de panneaux on va mettre, etc. Une fois que c'est vendu, il faut avoir l'autorisation d'urbanisme pour pouvoir installer une centrale. Donc ça veut dire qu'il faut préparer un dossier d'urbanisme, l'envoyer à la mairie, s'assurer qu'on a bien le retour, etc. Donc tout ce dossier urbanisme.
Beaucoup
on doit même nous afficher le permis souvent pour être sûr qu'il n'y a pas de tiers, de voisins. S'il y en a qui construisent des maisons, mais de voisins qui risquent pas de contester votre permis, ben vous l'affichez pendant 2 mois et vous prenez photo en vous disant « personne n'a rien dit pendant 2 mois, j'ai bien la preuve que je l'affichais, donc je risque rien ». Donc l'urbanisme. On a des demandes de raccordement parce que on doit être raccordé au réseau Enedis ou autre réseau, mais c'est principalement Enedis en France. Donc là, on doit raccorder au réseau. Et puis après, on a tout un volet, nous, qu'on peut avoir. C'est un sujet qui est avec des notaires. On a des échanges avec des notaires pour signer des baux. Et puis après, c'était très administratif, mais on voit qu'il y a plein d'étapes administratives et avec des temps morts. Et puis, il y a évidemment des choses qui sont très logiques. Tout le monde qui est de dire, la planification de chantier, le dimensionnement électrique des centrales. Et après, qu'on fait une fois ça, on fait le suivi de chantier. Une fois que le chantier est construit, on retourne au raccordement, on demande à être raccordé. Et après, on demande le contrat pour nous acheter l'électricité à EDF. Voilà.
Okay.
Là, c'est pour la construction.
Et comme soulignait Adrien, probablement pas mal de papiers, en tout cas, ou des choses qui se numérisent, enfin un peu au fur et à mesure, je sais pas, mais les choses là, tu dis, je sais pas, avec des notaires ou quoi, peut-être c'est un préjugé que j'ai sur les notaires, mais c'est vrai que moi, je les vois beaucoup, j'imagine, avec des classeurs, des trucs pas forcément très numérisés.
Oui, c'est vrai que les notaires, c'est le cas. Il y a des grosses différences entre un notaire. Alors, pour tout dire, ce matin, j'avais trois procurations à signer sur mon bureau en papier, donc c'est le bon exemple de ce qu'on doit signer. Tu as la signature électronique qui arrive un peu sur le notaire, mais ça reste encore un frein. Et l'autre point, c'est que contrairement aux autres métiers avec lesquels on travaille, le notariat, c'est compliqué d'avoir du poids vis-à-vis d'eux, de les faire changer. Et avec les autres partenaires, on peut essayer avec eux de travailler, dire comment on arrive à emmener plus de digital, parce que ça va leur servir, parce que nous servir. Le notaire, c'est trop compliqué. C'est un sacré chantier, essayer de réussir à les motiver, mais il y a des notaires qui prennent vraiment le sujet. Donc, on voit quand même que ça évolue. C'est parti.
Ok. Et alors, pour en venir vraiment un peu à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, deux questions qui sont un peu concomitantes, mais c'est qu'est-ce que vous avez voulu résoudre avec le no-code ? Enfin, quelle était la problématique ? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, ok, bon, bah là, on va avoir besoin d'automatiser, même s'il y a des choses qu'on soupçonne déjà juste de ce que tu nous dis. Et comment toi, t'as été au courant et t'as connu justement ces outils no-code ?
Alors, le premier point sur qu'est-ce qui m'a fait dire ça, déjà, la chance que j'avais, c'est qu'en fait, j'ai dit avant, moi, j'étais salarié dans une entreprise qui existe toujours, une ETI qui s'appelle Arcolia Énergie, son collier qui faisait ce métier-là, grosso modo. Et donc, moi, j'avais déjà un vécu opérationnel sur le sujet, qui était le suivant, qui était de dire, dans lequel figure que j'ai dit, qui est de dire multiples projets, beaucoup d'intervenants. Il faut imaginer que sur une centrale, on peut avoir jusqu'à 18 parties prenantes différentes sur un projet. On avait des gros problèmes de fluidité, de circulation de l'information, de partage de l'information, de retrouver de l'information. Donc, la caricature claire, hein, c'est que chacun avait son fichier Excel dans chaque service. On voit le sujet. Hein, et où est-ce qu'elle est la donnée maître, quand on a besoin d'avoir une vision un peu globale sur des choses qui arrivent, de financement, qui dit, tiens, j'ai besoin d'avoir une vision global, mais qui est transverse au commerce, au développement, à la construction. Oh là, faut qu'on synchronise les trois fichiers Excel. Bon, bref, c'était une peine incroyable pour réussir en fait à faire ça. Donc, une peine, c'est-à-dire soit ça nous demande d'énergie à le faire, soit on le fait pas. Il y a les deux. Ça, c'était le premier point. Et l'autre point que je voyais aussi souvent, c'était du fait d'avoir plein de projets. Et que nos projets durent longtemps, faut imaginer que nos centrales, à cause de l'administratif, hein, surtout, hein, ça met 2 ans en moyenne entre le moment où on signe et le moment où on raccorde. Et là, on a des clients qui se demandent où ça en est. Et combien de fois, moi, j'ai eu personnellement des appels de clients qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de nouvelles. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas proactif. Et en fait, nous, on est aussi un peu frustrés parce qu'en fait, on a fait notre job. Et on se dit, il aurait juste un peu d'informations. Déjà, en fait, il s'est dit, ah oui, ça avance, je suis au courant, etc. Et donc là aussi, on s'est dit, ça va être compliqué d'appeler toujours 290 personnes tout le temps. Il y a évidemment une notion de process pour dire que ce serait bien de les appeler à un moment donné. Mais est-ce que de manière générale, on n'arrive pas à envoyer de l'information régulièrement pour toujours les tenir au courant où en est leur projet ? Donc ça, c'était vraiment la peine initiale, c'était ça. C'était interne, d'avoir une vision globale des chantiers, où est-ce qu'ils en sont, la donnée maître. Et après, partage surtout client. Moi, que j'ai connu, qui était de dire qu'est-ce que c'est frustrant quand un client n'est pas content alors qu'on a fait le job. Enfin, c'est un peu ça, et c'est juste par un manque d'information. Donc ça, c'est pour répondre à première origine. Et donc, comment je suis tombé dans le no-code, j'ai tombé comme Obélix, et en fait, donc on en parlait un peu en off avant de commencer l'échange, mais tu as échangé avec mes anciens associés, donc Marco Perrone, avec qui en fait moi j'ai rejoint. Donc ils ont créé une startup qui s'appelle Capital PV, qui est dans le monde du photovoltaïque. Donc le principe, c'est une plateforme de génération de leads qualifiés dans le monde du photovoltaïque. Et moi, ils sont venus me chercher tout au début, hein, au bout de 6 mois. Et alors, pourquoi là j'ai découvert ça, c'est qu'eux, ils avaient déjà fait avec une agence parisienne qui s'appelle Start the Fuck Up, en fait le prototypage de comment on va mettre en place une plateforme pour être capable de faire votre solution et que vous puissiez gérer le sujet. Moi, ils sont venus me chercher parce qu'il manquait un côté vision photovoltaïque développeur, en fait vision métier. Et à ce moment-là, j'ai mon côté, on discute un peu tout à l'heure, ingénieur qui aime bien les problèmes, qui dit ouais, on m'ouvre une boîte de Pandore, je sais pas, j'ai pas appris à coder dans mes études d'ingénieur, j'ai pas la motivation de prendre le temps aujourd'hui de le faire. Et là, en fait, il y avait un frein à entrée qui était très faible. Et en plus, j'avais un cas d'usage. Ça, je pense que c'est un point important du no-code. C'est, j'avais un cas d'usage très clair. En fait, je connaissais ma problématique. Et donc, j'ai commencé à toucher des outils donc, qui étaient simples, hein, qui étaient Airtable, base de données, MailJet en mail transactionnel pour partager de l'information, et Zapier en automation. Et puis après, il y avait une landing page. Bon, là, qui était différente, mais ça a moins eu d'impact pour moi sur la partie landing page. Et j'ai également découvert la partie formulaire. On a utilisé Jotform à l'époque là-dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert chez Capital PV. Et en fait, je l'ai vraiment utilisé chez Capital PV. Et puis à un moment, en fait, on était en train de lancer en parallèle. Hein, moi, Énergie de Loire et Capital PV, c'est lancé en même temps. Donc, je lançais les deux. Ça posait d'autres sujets après. Okay, ouais. Mais je lançais les deux structures en même temps. Et en fait, alors, je peux pas dire que j'ai pas fait d'études sur la base de données. C'est très rigolo parce que j'en ai fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas écouté? Parce que, en fait, j'ai pas réalisé la puissance de la base de données, j'ai réalisé la puissance de Airtable. Mais en fait, indirectement, j'ai réalisé la puissance de la base de données dans ma problématique de départ. Airtable rendait la chose simple, accessible. Mais du coup, je me suis rendu compte, j'ai discuté avec mon associé sur NH de Loire et je dis, David, on est au tout début. Écoute, on rédige nos process. Donc, on a commencé, je pense, à faire comme beaucoup de gens. On était vraiment dans un garage. En plus, je me souviens, on bossait pas dans un garage. Il se trouve qu'on était dans un garage pour l'occasion là, pour se retrouver deux jours. Et puis, on a fait les post-it, les process. Et en fait, pour nous, on a juste fait un effet miroir en disant, OK, le process qu'on veut faire, c'est ça. C'est quoi l'effet miroir? Ce qu'on veut en partage d'informations, où est stocké l'information, etc. Et en fait, on a vraiment raisonner en disant on va utiliser Airtable et on va faire ça et on va mail des mails transactionnels en parallèle pour pousser de l'information à nos clients, voilà, et les informer. Et donc ça, c'était le point de départ. Et donc du coup, on s'est dit, bah, Airtable, on va l'utiliser, ça va être notre outil de gestion de projet. Enfin, on se l'est dit sans se le dire, en fait, on l'a pris. On l'a pas benchmarké, ça c'est un autre point que je dis après, mais j'ai pas de regret par rapport à ça. C'est qu'en fait, la solution était là, était top. J'ai pas fait d'analyse de mon besoin, j'étais vraiment dans une configuration de dire je sais que j'ai ce problème, oh tiens, il y a ça, c'est top. Il y a Airtable qui existe, c'est top. On fait matcher, je regarde pas s'il y a mieux.
Tu soulignes un super point, c'est que Airtable, il t'aide à comprendre la puissance d'une base de données. Et en effet, tu peux connaître ce qu'est une base de données, mais moi, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais quand tu as cet outil qui t'aide à comprendre ce que c'est, comment tu peux t'en servir derrière, là, ça fait tilt. Et en dehors de ça, je pense que c'est une compétence en soi, parce que oui, on l'a par Airtable parce que c'est facile à faire, mais du coup, ce serait facile à refaire sur d'autres outils, mais cet outil, moi, m'aidait à comprendre cette puissance.
Mais c'est pas inné, hein. Alexis, j'ai écouté quand même quelques-uns de tes podcasts, d'ailleurs je te remercie, pour nous entrepreneurs ou personnes dans le no-code, c'est hyper intéressant de pouvoir s'ouvrir, mais moi j'ai le souvenir d'échanges en interne où je revois tout d'un coup un champ sur Airtable et le champ c'est un single select alors qu'on va chercher je sais pas un notaire et je me dis waouh, pourquoi ils font ça, mais les gens n'ont pas le réflexe et même quand on leur explique c'est pas inné, ça paraît et je jette pas la pierre parce que c'était pas inné pour moi au départ et c'est en le pratiquant que j'ai compris la puissance, parce que le premier réflexe qu'on a quand on a sur une base de données qu'on l'utilise, c'est qu'on se dit on pense pas à l'étape d'après de ce qu'on pourrait faire de cette base de données.
Bien sûr.
On se dit juste dans le moment j'ai besoin d'un champ qui me pointe telle partie prenante, par exemple notaire, bon, bah, je crée un champ qui me dit notaire. Et on ne dit pas que je vais créer un lien avec une autre table parce qu'on ne réfléchit pas en disant mais ça serait intéressant que j'ai une autre table parce que peut-être qu'à un autre endroit, j'aurais besoin d'avoir rapidement une vue agrégée, surtout qui concerne ce notaire. Et ça, il faut acculturer en fait, les gens à ça.
Mais c'est pour ça aussi qu'on fait des formations. Tu vois, quelque part, il y a des choses. Enfin, tu vois, c'est un mauvais jeu de mots qu'on essaye de pas faire. Mais Airtable, typiquement, c'est un outil sur lequel il faut partir sur de bonnes bases, quoi. Et donc, c'est un outil. Tu vois, c'est intéressant parce que dans le no-code, je rebondis rapidement sur ce sujet parce que franchement, ce que tu soulignes, c'est nous, on adore, tu vois, ce sujet-là. Mais c'est vraiment tout le monde peut le prendre en main. En fait, tout le monde, on peut cliquer, c'est joli, c'est beaucoup plus facile quelque part à prendre en main que Excel ou que Google Sheet. Mais pour bien comprendre, soit t'apprends un peu dans la douleur parce que tu vas faire des erreurs puis tu vas te rendre compte, soit bah, avec une petite formation aussi, tu acquiers quelques-unes de ces notions pour ensuite faire quelque chose d'évolutif. Mais après, dans tous les cas, même avec une de nos formations ou une autre, hein, je veux dire, Après, c'est l'expérience, en fait. Il faut avoir fait des tas de bases de données, avoir schématisé, designé plein de bases de données pour être sûr que le projet d'après, tu vas bien designer, quoi. Tout ne s'invente pas non plus, quoi.
Totalement, t'anticipes. Nous, les étapes qu'on a vécues après, en fait, si je reprends moi pareil mon expérience, au départ, je faisais quoi ? Je raisonnais dans mon cloison d'automation que je voulais faire. Je ne raisonnais pas global. Et donc, dans ce axe-là, c'était quoi ma formation ? C'était de prendre un tuto, c'est de cramer les tutos sur YouTube sur un besoin spécifique et jamais de prendre une vision globale du sujet. Et donc, du coup, top. Alors, par contre,
Mais donc, la mise en place initiale, pour bien comprendre, vous l'avez fait vous-même, quoi. Enfin, vous avez commencé à utiliser, voilà. Parce que tu parles à un moment, tu dis, vous êtes posé quand même sur, pour des post-it, enfin, tu vois, vous avez quand même eu cette phase, on va dire, et peut-être, justement, réagir là-dessus, mais un peu à modéliser quand même ce que vous voulez faire, non ? Ou vous avez fait un peu au fur et à mesure aussi ?
Non, ça, on l'a fait vraiment au départ, et on aime bien les process, hein, dans la société.
Côté ingénieur aussi, non ?
Ça doit peut-être. C'est le côté ingénieur, et puis c'est l'autre côté aussi notre métier par rapport au volume de projets qu'on a. En fait, on pense que si tu le fais pas, c'est trop compliqué. Donc on s'est pas fait accompagner à ce moment-là, et on avait des accompagnements avec. Je m'excuse, je n'ai pas le nom. Donc Thomas, l'agence qui s'appelle Essentiel, je crois qu'il est basé à Strasbourg.
Thomas, que j'ai interviewé aussi il y a très longtemps. Là, tu me plonges dans les tout débuts du podcast. Wow. Je crois que c'est l'épisode numéro 5 avec Thomas et 22 avec Marco. Voilà,
c'est rigolo. Et donc, du coup, mais Thomas nous venait, on ne le prenait pas en vision globale. À ce moment-là aussi, c'était une erreur que je conseille. Tu l'as dit, il faut un moment acquérir une vision un peu globale. Du sujet, parce que sinon on fait des erreurs, et nous on en a fait, on en fait encore, on essaie de corriger. Nous on raisonnait que en nouvelles features. Donc en fait on posait notre truc cloisonné en disant tiens, ça serait bien de faire ça, et donc en fait je posais la question à Thomas, je veux faire ça. Thomas il dit je te fais ça, et il faisait bien son job.
Il est très pointu en plus, effectivement, il a ce truc, il est aussi bon dans cette vision globale, mais il est aussi très pointu pour faire un truc spécifique. Enfin, il a un usage de Zapier et d'Airtable très 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 avancé. Donc, mais juste pour faire une petite incise justement là-dessus, toi Adrien, quand tu démarres un projet avec un client que tu accompagnes, c'est quoi un peu les étapes que vous faites ? Comment est-ce que tu comprends un besoin ?
Moi justement, j'aime bien les creuser et pas m'arrêter qu'au besoin initial, parce que ça me plaît de comprendre comment ça marche. Après, avec Énergie Telluride, ça ne s'est pas passé de cette façon-là, mais en général...
On vient y venir après.
En général, vraiment comprendre ce qu'il y a derrière le besoin et comment ça fonctionne, quels sont les interlocuteurs avant, quels sont les interlocuteurs après le process, pour savoir comment rendre l'information de la meilleure des manières et la prendre de la meilleure des manières. Et du coup, des fois, on se rend compte justement qu'en fait, les specs du projet qui partaient comme ça, il peut couvrir et être beaucoup plus efficace si on va le prendre un tout petit peu avant et qu'on va le rendre un peu après, ou des fois un tout petit peu avant et qu'on peut faire un tout petit projet A avant le gros projet B, ou des choses comme ça. Donc moi, j'aime bien vraiment au début faire un scope et un petit diagramme qui va montrer le projet, on va le prendre là à partir de ce besoin-là pour arriver jusque-là, et qu'on sache un peu les tenants et les aboutissants et quelles applications on va utiliser avant de rentrer dans une phase où on met les mains dans le cambouis.
Ok, bah, on va voir justement alors comment vous en arrivez à la collaboration. Mais du coup, vous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'un moment où vous avez fait vous-même un peu tout et le moment où vous avez fait intervenir des gens extérieurs ?
Si tu veux, au départ, au niveau du no-code, ça, je pense qu'il y a une logique un peu... on est 80 maintenant, on n'est plus une start-up. Au départ, quand tu es une start-up, tu as deux choses qui sont importantes. La première, c'est que tu as tout le monde qui est proche de toi et il y a un état d'esprit qui est un peu identique, c'est que c'est des personnes qui sont quand même plus intéressées par ce qu'il est possible de faire que par le pendant qui pourrait être de ce côté, qui est de dire « Oula, c'est le bordel parce que tout n'est pas carré », qui est normal, tu te lances. Donc là, il y a un état d'esprit un peu identique, et donc il y a très vite une proportion de personnes qui ont une appétence pour faire du no-code qui est élevée. Et on verra, à mon avis, qui baisse avec le temps, mais qui est, à mon sens...
Intéressant.
Qui est à mon sens assez normal. Donc ça, c'est le premier sujet. J'essaye de réfléchir à trouver le second sujet que j'ai perdu sur le fil.
Cela dit, ça, c'est une remarque très intéressante. Je m'étais jamais fait cette réflexion et on n'a jamais... Mais je trouve que ça paraît du bon sens quand tu le dis. Enfin, ça paraît logique, ce côté très... peut-être un peu maker, cet état d'esprit quand tu lances une startup que un peu tout le monde doit avoir dans le bateau, quoi. Et puis qui se dilue peut-être un petit peu au fil du temps. Je ne sais pas si c'est une fatalité ou pas, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Mais si, parce que nous, aujourd'hui, à 80, on fait attention à quoi? Et donc, dans le monde des startups, ils parlent... Je sais pas, nous, comment on se définit, on est plus, entre guillemets, traditionnel, on n'est pas dans le monde de la tech, mais on parle de scale-up ou autre. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, tu arrives, au début, tu dois créer ton produit, créer ta chose. Donc là, tu n'es que dans le fait de dire, tu es dans le fait de build, de créer des choses qui vont te permettre à la fin d'être capable d'exécuter et de délivrer à tes clients. Nous, aujourd'hui, on est une phase où on délivre à nos clients régulièrement. Donc, en fait, la passe de ce qu'on délivre est énorme. Et je pense que ça, toute boîte dans la tech doit connaître ça, qui est de dire... maintenant, on a 1000 clients au jour le jour, donc j'ai moins le temps de m'occuper à essayer de faire des nouvelles features, des nouveaux outils. Donc ça, c'est une problématique qui est très prégnante, qu'on essaie de gérer. Et l'autre point après, plus tu recrutes, plus tu as des gens aussi dont tu as besoin, mais aussi qui aiment un cadre plus carré. À l'inverse, au début, tu as besoin de ce côté innovant. Et donc, comment tu arrives à garder ce côté innovant? Parce que l'autre point, moi, que je fais un parallèle, c'est que le no-code juge que c'est un support d'innovation pour les services métiers. Donc, du coup, faut réussir à faire cohabiter les deux. C'est tout notre casse-tête actuel, on va dire. Donc, ça, c'est le point de départ pour revenir. Donc, on grandit comme ça avec le no-code. Et un peu le défaut quand on commence, hein, les conseils, ça coûte cher. J'étais au chômage, je suis pas payé, on n'a pas beaucoup d'argent, on va tout limiter, donc on bride un peu le conseil. Et après, à la fin, je pense, en tout cas, j'ai parlé pour moi, ça vient presque aussi être un réflexe qui est de dire on va tout faire soi-même. Parce qu'on est habitué à tout faire soi-même. Donc, ce qui s'est passé, il faut avoir une idée qu'on a au bout de 2 ans, on atteint une première limite d'Airtable qui était le nombre de champs dans une table. On a eu 500 champs dans une table.
Ouais. Ça, je trouve ça fou, en fait. C'est un truc... Nous, par exemple, on n'a jamais atteint la limite de nombre d'enregistrements, mais la limite de nombre de champs. Je ne sais pas, c'est quelque chose que tu as observé déjà plusieurs fois, Adrien, dans des contextes, parce que peut-être que moi, je ne me rends pas compte, je ne suis pas assez dans des contextes métiers. Mais j'ai l'impression que 500 champs, ça devient juste ingérable, non?
Alors... Justement, quand moi j'ai vu le truc, quand on s'est rencontré avec Grégoire, je lui explique un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà mis en place et tout. Et lui, il m'explique là où il en est. Puis à un moment donné, il me sort son ordi, il me sort sa base, et là je vois le truc. Je fais ah ouais. Non, moi je fais plutôt passer des boîtes de 0-1 sur Airtable. Vous êtes plutôt du niveau de 4-5, tu vois. Et clairement, j'étais dans un truc que j'avais pas vu. Et voilà, en fait, ça c'était la première interaction qu'on a eue. Mais derrière, il y a eu des besoins spécifiques sur lesquels je suis rentré. Et en arrivant sur ces besoins spécifiques, en fait, on s'est rendu compte de pas mal de choses déjà sur lesquelles on pouvait, il y avait du conseil à apporter, il y avait une homogénéiser, on devait homogénéiser toutes les parties, tous les no-codeurs, toute la partie maker. Parce que justement, en fait, c'était trop bien. Moi, franchement, quand je suis arrivé chez EDL, c'était Disneyland Paris, j'étais super excité. Il y avait des makers de fous qui avaient déjà franchement un sacré niveau. Hein. Des fois, j'étais impressionné du niveau qu'il y avait déjà en place. Et en fait, c'est que du coup, c'était trop fort parce que surpuissant, chacun venait automatiser leur process sur leur partie métier, donc énorme. Mais par contre, chacun le faisait dans son coin. Et du coup, t'avais pas un process, t'avais pas des règles qui étaient établies, et c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc, quand on commence à comprendre ça et qu'on prend du recul, c'est là où on peut arriver sur maintenant, il va falloir un peu processiser, mettre en place les règles et se dire comment mettre tout ça en place et former aussi les gens. Parce qu'ils arrivaient sur Airtable, ils étaient vite lâchés dans voici Airtable, l'Airtable EDL, ils étaient vite lâchés et faut les amener peu à peu. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire derrière après, si tu veux.
Pour comprendre, je vais te laisser réagir après, mais juste pour comprendre, les 500 champs, est-ce que ça venait justement un peu de ce que tu évoques, c'est-à-dire que chacun venait ajouter les champs qu'il voulait un petit peu dans son coin?
Il y a un manque de discipline qui était important. Là, c'est plutôt une conviction. Je pense qu'au départ, on n'aurait pas été capable de faire une base parfaite parce qu'en fait, on n'avait pas.
Ouais.
Même si on a dessiné notre process, en fait, on voit bien qu'entre ce qu'on avait au début et maintenant, on est beaucoup plus expert et puis il y a beaucoup plus de sujets, donc c'est beaucoup plus pointu, donc ça évolue. Par contre, je crois qu'il y a un moment où il faut se poser sur. Comment vous appelez, j'oublie le nom, MCD, matrice de données, carte graphique de données. Je ne me souviens plus le nom. Vous avez, mais c'est de dire l'architecture de la data. Et
le
donc
diagramme
ça,
de. Ouais, enfin bon, il y a plein de noms.
Il y a plein de noms, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comment on donne l'architecture de la data. Là, je pense que c'est une erreur qu'on a fait quand on a connu le premier coup à 500 champs. Là, j'étais encore un peu en mode traumatisé à dire je ne prends pas de conseils. Là, je me suis dit, on va trouver la solution seule. Que là, je pense que ça aurait dû être une erreur de dire c'est le moment de remettre à plat. On a 500 champs, on fait quoi comme architecture de données donc, ça, c'était un premier point. L'autre point, c'est un enjeu de discipline. Ce que dit Adrien, c'est que. Je dis une connerie, je vais prendre un exemple qui est faux mais qui est plus compréhensible. On avait le champ nombre de panneaux, et si je caricature, on avait nombre de panneaux entre parenthèses service commercial, nombre de panneaux entre parenthèses service BE. Donc, bon, je pense que les gens connaissent ça. C'est ouais. L'erreur qu'on a faite, j'ai pas trop de regrets parce que je pense qu'on aurait bridé, j'aurais voulu faire plus tôt. C'est qu'un peu à mon image, moi j'ai pris la boîte de Pandore du no-code en la regardant et en crochetant. Et après, j'ai donné tout ça de la même manière à tous les makers actuels en disant c'est pareil, les gars, allez-y, c'est open bar, j'adore l'innovation, faites ce que vous voulez. Je caricature, je ne l'ai pas dit comme ça, ouais. Mais ma posture était celle-là. Donc, du coup, forcément, au bout de chaîne, on atteint 500 champs. Alors, oui, je pense qu'on a beaucoup de champs de manière générale, mais 500 champs, il y a un problème.
Non, mais c'est, je pense qu'il y a quand même plein de vertus, tu vois, cette. Autonomisation de tes équipes, on va dire, je pense que ça, c'est quand même. Après, il faut un petit peu de discipline. Mais moi, je suis convaincu, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Adrien, mais que c'est très difficile que personne, même des experts, ne peuvent avoir la base parfaite dès le début, la modélisation parfaite. De toute façon, la modélisation, elle est amenée à évoluer.
Oui.
Et c'est vrai qu'après, c'est juste de ne pas se retrouver bloqué, je pense. C'est ça, peut-être que l'expérience peut t'amener, c'est de modéliser de telle sorte à ne pas te retrouver bloqué, quoi.
En fait, c'est de anticiper les potentielles limites en amont, tu vois. OK, où est-ce qu'on est maintenant? Combien de projets ont compte signé? Quelles peuvent être les premières limites? Donc, aller regarder en termes de nombre de records, en termes de potentiel nombre de champs qui viennent à évoluer ou ça. Et en fait, c'est anticiper là-dessus et le voir en amont. Donc, de temps en temps, faire pause sur l'actuel et regarder où ça peut bloquer.
Pour la petite anecdote, il y en a eu plusieurs chez toi qui sont passés comme ça, mais c'est le cas aussi pour notre boîte. La chance qu'on a eue, ça aurait été encore pire, je crois, sinon on n'aurait pas réussi, c'est qu'en fait est arrivé le Covid quand on avait signé 80 projets et qu'il fallait commencer à envoyer. Donc en fait, on s'est retrouvé, en fait, au moment du Covid, j'avais plus personne qui m'appelait et on s'est posé deux questions. Moi, j'ai passé à crocheter les process et à me dire comment je mets sur Airtable, qui est... et là c'est quelque chose de triste qui s'est passé, mais par rapport à mon business c'était incroyable, j'étais plus dérangé, j'avais le support, j'avais la matière, j'avais les problématiques, j'avais le temps de le gérer et donc c'est ça qui a permis qu'on s'y ait mis, et on n'a jamais réussi à retrouver ce moment, et c'est là, c'est toujours compliqué hein, de trouver la parenthèse où tu fais un stop et tu dis qu'il faut qu'on mette à plat parce que la machine tourne bien en fait, parce que tu sors des projets.
Tout à l'heure tu disais toutes les boîtes se retrouvent à un moment à avoir 1000 clients, bon, malheureusement, pas toutes les boîtes, mais justement, enfin, c'est plutôt bon signe quand t'as ce business qui tourne bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est très difficile de se dire, c'est même impossible, je pense, de dire stop, on met tout sur pause. Enfin, ça, c'est des choses, il faut arriver à faire en parallèle. Mais, là-dessus, j'aurais pas forcément de conseils ou de réactions. Je pense que tout le monde y est confronté et que c'est, après, il faut arriver à gérer du mieux qu'on peut, voilà.
Je pense que c'est aussi grâce à ça que Energy est allé aussi vite aussi aujourd'hui et a atteint des limites aussi rapidement. C'est parce que tu as laissé ça. Quand on laisse des makers dans sa boîte automatisée et tout, c'est des nouveaux moteurs que tu viens mettre et c'est une boîte qui est de plus en plus scalable. Donc, quand tu le fais bien et en plus, s'il y avait les bonnes règles de base, c'est pas, mais là, elles viennent après. Mais c'est vraiment un terme, tu viens mettre de la scalabilité dans ta boîte.
Et puis, tu fais des choses que tu avais pas prévues. Alors, je fais une petite digression, mais j'ai dit qu'on partageait l'information. Ce qu'on n'avait pas estimé, c'est une chose toute bête, alors qui est très simple, c'est qu'on s'est dit, beaucoup de gens ont fait peut-être bosser des artisans dans l'appartement ou autre. Bon, c'est compliqué, des fois, les artisans, les plannings ou leur information. Mais nous, on s'est dit, tiens, souvent, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'information aussi en amont. ben on va leur faire des iframes de tous les projets qui les concernent sur les 6 mois à venir, on les connaît. Et donc on a développé juste portail. Alors, très bête, les portails dont donc, on a fait, on n'est pas passé par des solutions type software ou autre. On a dit, à l'époque, on a dit, bah, tiens, on a un WordPress, on parle WordPress, on pousse des iframes dessus.
Donc, et aujourd'hui, juste pour préciser, les iframes, c'est une partie de Airtable que tu viens donner à l'extérieur, juste pour préciser ce que c'est. Donc, tu viens montrer une partie du tableau à l'extérieur, sur donc, un en site l'occurrence, web, à tes prestataires. Voilà.
Et ça, j'avais pas anticipé la puissance que ça allait avoir sur nos partenaires. Parce que de la même manière, en fait, que j'avais traduit au début la peine qu'on avait en interne parce que l'info circule mal, ben là, en fait, ils n'ont jamais eu accès n'importe quand, n'importe où et surtout en amont sur toutes les informations d'un projet. Et aujourd'hui, on a, je crois, 100 portails différents, 100 partenaires qui nous font des retours et qui, eux, des fois, certains nous poussent en nous disant « On aimerait pouvoir modifier les données ou vous envoyer la donnée dessus. » Génial. Et ça, c'est quand même venu au départ aussi de laisser ouvrir, laisser tester des choses, que les gens prennent ça.
Ouais, franchement, moi j'ai l'impression, enfin, de tout ce que tu me dis, tu vois, c'est vraiment un super état d'esprit, quoi. Enfin, c'est ce truc de. Et qui ne peut pas forcément être laissé autant dans une grosse boîte, parce que c'est après, il y a un moment où plus t'as de collaborateurs, peut-être t'as d'autres enjeux. Mais je pense qu'au début, il y a que ça de vrai, quoi. Enfin, on est obligé. Tous, hein, je veux dire, même nous, par exemple, on est une toute petite boîte, mais il y a des choses, on est allé très vite sur les automatisations, on n'a rien documenté, je veux dire, et on donne des formations, on explique aux gens qu'il faut super bien documenter, qu'il faut faire, mais il y a un moment, il faut être réaliste aussi. Enfin, nous, on essaie aussi de pousser ce truc un peu pragmatique, quoi. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout, et il y a des moments, il n'y a pas d'enjeu, il faut aller vite, et puis après, on
corrige. C'est à quel moment tu lèves la tête du guidon? C'est ça, je pense que tu as raison, c'est-à-dire, à un moment, il faut prendre, quand tu prends conscience qu'il y a un sujet, c'est là où je pense que c'est important. La prise de conscience fait que le sujet est costaud, à mon sens, parce que je n'ai pas réalisé. Et donc, c'est là qu'il faut le prendre et il ne faut pas le laisser. Mais oui, moi, je partage totalement ça.
Et du coup, pour en venir un peu à la collaboration, parce que ça, je trouve que c'est aussi un sujet qui est vachement intéressant et que les auditeurs et les auditrices potentiellement peuvent avoir besoin, c'est de comprendre comment est-ce que on interagit avec des consultants et des experts no-code, et tu vois, enfin un peu, déjà, comment ça s'est passé votre choix? Puis j'aurais peut-être la question inverse, d'ailleurs, pour Adrien, pour savoir aussi comment toi, est-ce que tu trouves des clients? Mais voilà, un peu, tu vois, vous, Grégoire, tu vois, quand vous avez dit, bon, ok, on a besoin.
Alors non, c'est pas du tout dit comme ça.
Ouais.
Alors, moi, je suis quand même assez comme ça. J'ai l'impression, dans la communauté no-code, ça a l'air assez prégnant, mais dans le photovoltaïque, j'ai beaucoup suivi ça. C'est... je fais aussi confiance aux rencontres ou au moment de l'instant, parce que je juge que, si c'est fluide, faut y aller. J'ai ce ressenti là. Et en fait, c'est tout bête, hein, c'est que de la même manière, je te dis, au début, on était dans notre garage à faire des process avec des post-it. Un peu plus tard, on avait loué une salle et on a fait la même chose, qu'on écrive aussi un peu sur le tableau, et on n'a pas effacé le tableau en partant. Qui était un espace de coworking, on n'a pas du tout effacé, je sais pas.
Okay.
Et il se trouve qu'Adrien, c'est là-bas, il a dû voir des mecs qui écrivaient sur, il y avait écrit Airtable des trucs. Adrien racontera, je sais même plus ce qu'on avait écrit. Et je crois que c'est toi qui m'as contacté directement, ou c'est le gérant de l'espace de coworking.
Ouais, c'est Philippe qui t'a filé le contact, du coup.
Donc voilà.
Qu'on salue Philippe de la Ruche.
La Ruche à Saint-Nazaire, qui m'a filé le contact, et j'ai dit, vu que moi à ce moment-là, il faut se donc ça, je pense, c'est aussi une erreur. Je ne referai pas avec le recul, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le no-code, mais je l'ai crocheté en solitaire, et j'apprécie beaucoup les échanges que je partage là, ou quand je suis allé au Web Today, je peux pas assez mettre de temps, je pense, aujourd'hui, mais je pense que ces échanges sont hyper importants parce que c'est des sujets nouveaux, il n'y a pas forcément de sujets clairs, il faut pouvoir échanger. À ce moment-là, moi, j'étais isolé parce que je ne m'étais pas ouvert, hein. Et tout d'un coup, on me dit, tiens, il y a un gars qui est sur Saint-Nazaire, à deux pas de chez toi, et qui a fait waouh quand il a vu Airtable. Je dis, putain, il faut que je discute avec lui. et donc voilà, on a discuté ensemble. Et puis j'ai dit, bon, de toute façon, moi, j'ai toujours des demandes, j'ai pas assez de gens, et j'étais encore un peu dans ce mode, faut que j'envoie des features dans tous les sens, dans tous les sens. donc Adrien, viens tester, et puis on bosse ensemble.
Est-ce que tu veux raconter un petit peu ton côté de l'histoire, ouais, Adrien?
Du coup, je reprends moi je suis je coworkais à l'époque à La Ruche à Saint-Nazaire. Je descends dans la salle en bas et je vois un géant process Airtable sur le tableau Alors là, j'ai les yeux en mode étoile. Je fais, oh, mais qui est-ce qui a fait ça ici? Je vais tout de suite voir Philippe. J'ai Philippe, qui est-ce qui était là? Et toi, c'est Énergie de Loire, je t'en ai déjà un peu parlé et tout. Ils sont tous sur Airtable. Je fais, ah, oh, c'est géant et tout. Bah, tiens, à l'occasion, il faudra qu'on se rencontre. Et en fait, ça s'est fait, voilà, j'ai eu un coup de fil de Grégoire et c'est, l'échange s'est fait comme ça. Et énorme, quoi. Mmh.
D'ailleurs, je rebondis sur ce truc-là, peut-être plus sur le côté justement consultant en freelance. C'est un conseil aussi que donnait dans un des épisodes que j'ai publié aujourd'hui même. Je crois que c'était Julien Mottet, Julien qui disait ça dans notre le local. Le côté, on peut trouver ses premiers clients localement, notamment quand on se lance. Bon, là, c'est pas forcément des premiers clients, mais ce côté local, en plus, c'est quand même chouette de bosser avec des gens, pas que en ligne, en remote et tout, parce que bon, on a tous pris l'habitude de ça avec le Covid. Et c'est bien aussi, hein, d'ailleurs, que si certaines personnes un peu isolées puissent accéder aussi quand même à tout ça. Mais moi, je trouve que c'est assez chouette aussi, ce côté un peu, voilà, un tableau, quoi. Il y a un truc intermédiaire où vous êtes même pas croisés physiquement. C'est une trace laissée quelque part qui fait naître une collaboration.
Bah, du coup, là, je te rejoins complètement. Et puis, c'est en lien avec ce que tu disais, Grégoire, au début, la proximité, qui est une des valeurs d'Énergie de Loire à laquelle j'adhère à fond. T'es là, il y a un besoin, tu peux parler trop directement avec la personne. Enfin, moi c'est... Je vais raconter un peu comment, moi, au début, j'ai fait. J'étais en ligne et j'allais... voir des besoins sur Internet, donc des gens qui avaient des réelles problématiques et que je leur répondais. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients 100% en ligne et que bah, je me suis fait la patte à Airtable, à faire de l'échange de clients, à faire mes premiers process et tout. Et de fil en aiguille, je sais que je suis au bon endroit, je m'éclate avec l'outil, je fais des mini-produits que je kiffe. Du coup, tranquillement, je vais bosser dans des coworking, je gère un peu ma micro-agence comme ça, je fais rentrer des projets Airtable comme ça. Et en fait, je parle juste Airtable à des pauses, quand j'échange et tout, je fais comment tu fais ça, est-ce que tu sais que tu peux l'automatiser, tout ça. Et de fil en aiguille, en fait, t'es dans un endroit, il y a quelqu'un Airtable, automatisation, un besoin, et ça va trop vite, et ça va super vite, c'est juste... t'es au bon endroit, tu rencontres les bonnes personnes et tu vois aussi que tu peux très vite aider. Quand t'es sur un outil comme ça et t'as un certain niveau de compétence, tu peux très vite apporter une aide et qui a une certaine valeur. Tu peux très vite la valoriser aussi, cette aide. Donc, rien qu'en partageant, moi, c'est du coup, là, maintenant, mes clients, c'est uniquement du bouche-oreille. Là, je suis full, c'est uniquement du bouche-oreille parce que bah, je kiffe ce que je fais, je partage et c'est cool.
Et par quoi ça a commencé justement votre collaboration? C'était quoi les priorités?
Les premiers trucs, c'était quand même, en effet, t'étais un
réduire
peu
le nombre de champs.
Feature. Il était en mode, il y avait plusieurs sujets. Il y avait le mode feature, il faut builder. Et le premier truc, c'était on a un sujet de signature électronique. C'était un peu pour ça le premier sujet. Il y avait un service qui avait besoin de signature électronique, le service construction, pour que ça dépote.
En même temps, c'est bien d'avoir une mission quand même concrète pour commencer une collaboration, je pense. Sinon, ça peut être surtout là, vu du contexte que tu nous donnes, où il y a quand même déjà tout un SI en place, enfin voilà, avec plein de choses, avec justement des makers un peu dans tous les sens. Je pense que pour commencer à collaborer avec un consultant qu'on vient de rencontrer comme ça à travers un cowork, ça peut être bien de lui assigner une mission un peu concrète, quoi.
C'est carrément bien, et dans les deux cas, ça permet de tester et de voir aussi dans quoi tu t'embarques, parce que moi, franchement, à l'époque, là, on parle de, il y a plus d'un an, hein, maintenant, c'était clairement, je me serais pas senti à l'aise de rentrer sur une mission vraiment consulting propre. Et là, je suis rentré en mode builder dedans, dans laquelle on était à l'aise tous les deux, en face tous les deux, et j'ai pu shipper des premières choses qui avaient un impact. Donc, ça, c'était chouette. Et il y avait du coup aussi une deuxième partie, donc build feature, et une deuxième partie sur on sait plus trop là, faut ranger un peu comment on peut faire et tout. Et donc en rentrant par là, c'est là où on rentre dedans, on voit comment les gens l'utilisent, on voit pourquoi ils l'utilisent. Et au fur et à mesure, moi j'ai pu prendre des petits steps de recul et arriver sur des règles à mettre en place sur tout Airtable. Aujourd'hui, je fais des formations, mais on a créé la formation Airtable EDL niveau 1 et on veut mettre tout le monde au même niveau sur le niveau 1 pour que chacun ait toutes les règles de comment on utilise Airtable, chacun ait les process de comment ça se passe et ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et juste déjà d'avoir tout le monde au niveau 1, c'est cool.
Et du coup, est-ce que justement tu as apporté un regard un peu extérieur, un peu neuf peut-être aussi sur tout ce qui était en place? Parce que j'imagine que vous, Grégoire, vous étiez à fond, c'est pas que juste parce que vous chiffriez plein de choses, mais au bout d'un moment aussi, on a moins de recul, peut-être sur sa base, sur ses trucs, il y a des choses qui paraissent acquises.
Ça, je crois que c'est d'autant plus. Alors, je pense que de manière générale, un tech, c'est un sujet, parce que je pense que ça évolue vite, le no-code aussi. C'est à un moment des œillères, parce que nous, on n'a pas le temps de regarder toutes les stacks, toutes les évolutions, de regarder notre structure, on est la tête dedans, que ça soit sur notre outil, que ça soit comment il est architecturé, ou les types d'outils qui existent, ou ce qui évolue sur notre outil. Donc ça, je sais que c'est des sujets de réflexion qu'on a déjà avec Adrien. Adrien envoie maintenant aussi une petite news aussi souvent pour dire tiens, il existe soit une nouvelle feature ou soit un nouvel outil intéressant, parce qu'on se rend compte que nous on est tellement dedans qu'on a besoin de nous sortir un peu de ces sujets-là. Et oui, à force on devient un peu enfermé. Alors on voit le problème, mais c'est surtout qu'à force on va en discuter du problème là de l'architecture, mais c'est une vraie peine depuis un an et demi. Et ce qui est compliqué pour moi, alors, c'est que pour résoudre ça, alors, j'ai encore une aparté, c'est que on a aujourd'hui un service IT. Hein, on a quatre personnes dans le service IT. La première personne, c'est Axel que je prends au service IT. Alors pour l'anecdote, hein, on va dire, j'étais cohérent dans mon côté entêté, c'est que je me suis dit tiens. Je sens que si je pouvais faire si j'avais un mec qui maîtrisait JavaScript, je pourrais faire des features encore mieux. Ouais, vraiment, t'as compris comment j'étais encore en mode vraiment bulldozer, la tête dans le guidon. Et en fait, il est arrivé, et je pense, Axel, au début, ça a été dur parce qu'il a vu les sujets, mais lui, il a perçu le risque. On a eu des discussions avec Axel sur les niveaux de sécurité au début, où pour moi, je pense que c'était un peu le choc des civilisations, parce que je me suis dit, mais je caricature, mais qu'est-ce qui m'embête avec la sécurité? moi, ce que je veux, c'est builder, c'est d'aller plus vite. Et du coup, il y a eu vraiment une phase d'adaptation costaud avec Axel. Et pour à la fin, à la conclusion où Axel est responsable aujourd'hui du service IT, et finalement, il build et il code quasiment plus, parce qu'en fait, il y a une réflexion qui est de dire là, il y a un sujet d'organisation du service, de procédé, de discipliner cette partie-là.
Et puis, c'était aussi la documentation et qui est un projet en cours. C'est parce que tout était fait sans trop être documenté. Là, on a vu que il y avait un manque à faire ça. Du coup, il y a de la documentation qui commence à se mettre en place. Et la documentation, c'est aussi te dire, qu'est-ce qui est à quel endroit. Donc, c'est ce que la RGPD veut, de savoir que tu sais où sont toutes tes informations.
Bien sûr, constituer le registre qui est demandé là pour le RGPD, notamment, c'est un acte de documentation. Quelque part, ça aide aussi à structurer.
Nous, après, pour te dire un peu, donc l'histoire des 500 champs que je disais en rigolant tout à l'heure, on l'a fait en interne et hop, c'est bon, on n'était plus bloqué. Et un an plus tard, boum, 500 champs à nouveau. et donc, on dit, bon, mince, il y a quand même une problématique. Et donc là, on est en phase vraiment de reprendre l'architecture de données, mais vu qu'on ne l'avait jamais faite, et en fait que chacun, chaque maker, en fait, a fait de son côté à crocheter, en fait, elle était compliquée à... Enfin, il fallait réinterviewer tout le monde et resynchroniser ça. Donc ça, on l'a fait. Et là, aujourd'hui, la question qu'on a, c'est que moi, l'année dernière, quand on voit le sujet... Je me dis, bon, il faut qu'on ait un projet d'évolution de notre SI. Et là, j'ai des interviews avec des personnes. Et en fait, ça a été compliqué pour moi parce que je me dis, putain, j'échange avec 3-4 personnes. On dit, bon, c'est fini de jouer, les gars. Maintenant, vous prenez un ERP sur étagère et c'est fini de jouer. Je caricature un peu, mais quand même, dans le fond, c'était vraiment ça. C'était dire, bon, c'est bien, vous êtes bien crocheté, vous faites ça. Et moi, mine de rien, j'avais un blocage hyper important avec ça, que j'arrivais pas à verbaliser à l'époque, parce que je me suis dit, mais mince, je redis, moi, je pense vraiment que le no-code est un vecteur d'innovation des services métiers. Je le crois fort. Et je me dis, et en plus, j'ai des personnes qui le portent, donc ça veut dire que j'ai des profils dans la société qui aiment faire des choses de nouveau et innover, donc c'est-à-dire débloquer des verrous ou créer des nouveaux services qui ont de la valeur, et on va tout leur couper. Je me dis, mais même ces personnes-là, au-delà de couper une dynamique, on leur coupe un bras, ils vont peut-être pas rester parce qu'ils vont dire ça peut peut-être apporter beaucoup dans la reconnaissance du métier, mais ça représente que 10% de notre temps. C'est, des fois, c'est aussi une partie qu'on aime bien. Et donc là, toute la réflexion à pousser, c'était de dire après, comment on fait en disant on veut quelque chose de plus robuste, plus sécuritaire, alors que deux sujets, un sujet Airtable qu'on voyait, c'est que Airtable, alors il y a les interfaces qui sont arrivées, qu'on essaye de pousser, qui a des limites, mais à la base, c'était quand même, on avait Airtable qui est le front, qui est le back, qui est la base de données. Alors, je dis ça comme si je savais tout, je rassure, j'ai pris conscience de l'impact que ça avait, ces mots-là, dans ce projet, et de l'importance de les séparer. Tout ça pour dire, en fait, qu'il y avait, on n'a pas une zone où on protège nos données, on n'a pas d'aspect sécuritaire sur back-end ou autre qui protège, on n'a pas un aspect utilisateur qui est plus simple. Et donc déjà, on se dit, est-ce que Airtable, c'est toujours le bon outil ? C'est la réflexion qui est toujours à pousser, toujours avec dans un coin de notre tête de dire mais si on enlève Airtable, on a aujourd'hui, j'ai pas le nombre exact, mais une dizaine de personnes, on appelle ça notre communauté, alors on n'a pas le nom exact encore, il va être cherché, mais notre communauté de makers, si tu veux, et on dit mais il faut qu'ils aient un espace. Et donc là, tout l'enjeu, et ce qui est dur, c'est de trouver c'est quoi notre SI de demain avec des personnes qui n'ont pas besoin de. Qui ont besoin juste d'une interface la plus simple possible, qui sont vraiment des utilisateurs. Et eux, ça va être important que ce soit clair quand ils arrivent, ils ont juste les informations dont ils ont besoin, parce que eux, ils ont besoin que ce soit plus carré et ils n'ont pas besoin d'avoir tout le détail de pouvoir faire de nouvelles choses. Et comment on conserve pour autant un espace à des makers et pas à des codeurs ? Un espace important. Et donc là, c'est la frontière qu'on a un peu en ce moment, parce que je pose mes questions à chaud, parce qu'on va commencer à me dire ça va être compliqué, Grégoire, c'est une base de données unique, ça va être compliqué. Je lui dis est-ce que demain on n'est pas capable d'avoir un SI qui peut être en code plutôt classique et une zone de prototypage qu'on assume pour les makers avec des règles, avec de la discipline pour dire une fois qu'il y a une feature, un produit qui est mis en place, s'il tourne, hop, on le rentre dans le SI classique au bout d'X temps et on fait tourner.
Intéressant. Et c'est là où vous en êtes aujourd'hui, c'est un peu de où en sont ces réflexions et peut-être un peu sur le quel est le futur un peu peut-être de tout ça justement.
Non, c'est vraiment là où on est, parce qu'en fait on a lancé le chantier, on a communiqué à tout le monde, donc là on faisait des POC sur les outils. Mais il y a beaucoup de craintes. J'ai un Adrien, je mange avec Adrien la semaine dernière. Adrien il me dit quoi, on va arrêter Airtable? T'es fou. Et voilà, il dit. J'ai dit non, mais c'est pas ça. Mais il y a un endroit où on voit bien qu'on. Alors il faut qu'on le fasse en conscience. Hein. On a toujours la crainte de faire le mauvais choix vu l'impact qu'a eu Airtable. Mais on a besoin de quelque chose de plus structuré en endroit et on nous en laisse la place. Donc là, on est dans les phases de POC, mais on commence à être confronté justement à cette problématique que je viens de dire. On s'est rendu compte de dire, on ne peut pas laisser la communauté à côté, il faut qu'on lui laisse une espace d'expression et ça serait bien que ce soit le même outil quand même. Ils ont tous capitalisé des compétences, des connaissances dessus. Si on ne leur met pas l'outil, il va y avoir un problème. Et là, du coup, on est re-rentré dans une phase un peu d'interview de personnes pour avoir le ressenti si c'est quelque chose de faisable, cette partie-là.
Pour mettre juste du contexte là-dessus, il faut savoir que du coup, chez Énergie de Loire, il y a... Vraiment, c'est quand on dit une dizaine, c'est une dizaine de personnes qui savent utiliser Make, qui connaissent, qui gèrent bien sur Airtable, qui savent faire des automatisations à 5, 10, 15 steps. Donc, on est quand même dans une des gens qui sont des vrais makers et qui sont des no-codeurs, quoi. Et donc, moi, quand j'ai vu, du coup, ce qui se mettait en place pour le SI, j'ai bien aimé, Grégoire, tu l'as mis tout en haut de la liste des critères, c'est garder l'autonomie des métiers sur cette partie-là, sur l'automatisation, sur ce qu'ils maîtrisent. Et ça, je pense que, pour moi, c'est une des raisons pourquoi Énergie de Loire en est arrivé jusque-là aujourd'hui en termes de réussite et d'expansion et tout. Et du coup, c'est trop bien de garder ça comme critère numéro un.
Super.
Et peut-être que je peux faire juste un petit retour d'expérience sur aussi le Airtable. parce que la première chose à faire et qu'on a vu et qu'on a souhaité mettre en place aussi, c'est tiens, limite de 500 champs, pourquoi dès qu'il y a eu les interfaces, on n'a pas fait passer tout le monde sur les interfaces? Et là aussi, il y a eu des petites choses, on a pris des petites leçons, c'est qu'on avait mis l'IT et on a fait, bah, voilà, on est limité en champs parce qu'il y a trop de droits ouverts à tout le monde et ça bosse directement sur la base de données. Et ce qui est encore très bien pour des boîtes, je pense, de 10 personnes, tu vois, ça va encore. Dès que tu peux mettre de l'interface, c'est sûr que tu as plus de sécurité. Donc, nous, on a voulu très vite mettre de l'interface pour cadrer les process pour certaines personnes et qu'ils aient juste leur surface de travail, qu'ils aient à voir uniquement ce dont ils sont responsables. Et donc, c'était très bien. Et en fait, on a fait aussi la petite erreur, je pense, hein, et c'est ce qu'on se dit avec le recul et avec le service IT et avec Grégoire, c'est que on a voulu prendre un peu le métier, prendre le brief, tu vois, de loin et de se dire on a les compétences pour faire leurs interfaces et on leur rendait une interface. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en faisant ça, bah, tu brides déjà des gens qui ont leurs habitudes sur Airtable à faire de leur côté. Du jour au lendemain, tu leur mets une interface et tu leur dis ça va se passer comme ça et ton interface, elle est jamais parfaite en un rendu. Et en fait, la petite leçon qu'on a prise, c'est plus bah, former les gens à faire leur interface ou avoir quelqu'un vraiment du service métier qui est avec eux et qui fait l'interface comme il y a Lucas, qui le fait bien. Et donc, il build l'interface en live avec eux et il prend des retours en live et il vient la transformer en live. Et là, on a une adhésion qui est beaucoup plus forte au sujet de l'interface Kali.
Ça, c'est clairement un point important à souligner. Et si on élargit nos codes, c'est la capacité, le cahier des charges. Moi, j'ai pas connu avant, mais j'avais cet a priori là hein, avec la tech, c'est-à-dire, faut que je définisse un cahier des charges de ce que j'ai besoin. Donc déjà, la barrière elle est énorme. Premier point, c'est faut que je me pose pour définir ça. Deuxième point, mais en fait, souvent, je crois, en tout cas dans les sujets qu'on porte, le cahier des charges, on l'a pas exactement au départ, et en fait, c'est en pratiquant qu'on le définit. Autant en voyant les possibilités qu'en se rendant compte des contraintes et puis tout ça fait en voyant ben en fait le service métier il tire très vite là-dessus pour tester ça et ça c'est quand même une force du no-code, c'est de casser la barrière de cette histoire de cahier des charges, c'est ce qui permet d'avoir vite des features. Alors l'autre pendant c'est que c'est la dérive que tu peux avoir si tout le monde fait ça hein, qu'on vient un peu d'échanger mais c'est une vraie force et je crois qu'il faut réussir à le conserver parce que j'ai eu des échanges, alors je t'en vois retour, mais avec des personnes qui m'ont dit mais je connais une méthodologie pour faire un cahier des charges hyper simple. Ah, mais ouais, mais le problématique c'est que c'est quand même un frein. Et l'autre point qu'il y a c'est que je crois qu'un maker, ce qu'il aime, c'est d'appuyer tout de suite sur le bouton. Il appuie sur le bouton, ça fonctionne. Alors, ce serait bien de le faire en phase de test ou autre avant que ce soit directement en phase de prod. Mais tout de suite, il voit que ça fonctionne. Et tout de suite, il est en train de dire « Ah, ça fonctionne pas très bien, je vais changer ça, etc. » Et donc, c'est tout de suite grisant. Alors moi, j'ai l'impression d'avoir toujours un peu la passion, alors que ça fait longtemps que je le fais plus opérationnellement, mais j'étais grisé par ça au tout début. Et je crois que c'est vraiment un moteur qu'il faut réussir à ne pas perdre. Vraiment, il faut que les services métiers, j'ai déjà dit, mais on arrive à retrouver l'interface sur le sujet. Mais c'est un sujet que tu as pas mal abordé hein, et que nous, on a IT versus métier. Est-ce que le no-code va changer suivant les structures, la zone de périmètre et la limite? Moi, je veux essayer de pousser parce que je viens pas d'IT donc j'espère que je suis pas dans le déni, c'est ma seule crainte, mais que les métiers puissent faire un peu de sujet. Mais en fait, on est en train de se dire, nous, on veut que les métiers aient une petite partie, l'IT une autre, essayer d'avoir que l'IT aspire partout. C'est ce qu'on souhaite.
Bah écoute, on pourra refaire un épisode dans un an et continuer à avoir votre retour. Non, mais parce que ce sujet-là, je pense que personne ne l'a vraiment craqué. Je pense que ce que dans les grandes entreprises, on appelle un peu le citizen developer. Déjà, bon, j'aime pas du tout ce terme. En plus, je pense que c'est un mythe, un peu, parce qu'en fait, c'est un peu des trucs. C'est beaucoup du marketing de OutSystem et Mendix et de tous ces outils. Moi, je suis pas vraiment convaincu. Déjà, bon, dans une entreprise, je sais pas pourquoi on parle de citoyen, mais bon, ça, je vais pas trop pinailler sur les mots. Mais je pense pas que tout le monde doive non plus mettre les mains dedans. Mais à l'opposé, je ne crois pas que les métiers doivent écrire des cahiers des charges, parce que je pense pas. Et je serais curieux de savoir cette méthode. Mais moi, de toute ma vie, tous les cahiers des charges que j'ai lus, ils étaient jamais. Enfin, je veux dire, c'est à un moment, on a besoin de poser ses idées. Mais le cahier des charges, franchement, je connais aucun dev qui a lu des cahiers des charges, ils supportent pas ça. Donc c'est les chefs de projet qui essayent de les lire pour les traduire aux devs. Enfin, c'est un truc et personne n'arrive à en lire correctement. Il y a rien qui ne vaut la discussion, l'échange, l'observation, la compréhension. Et ça, c'est le rôle pour moi des consultants et enfin ou de quelqu'un dans l'organisation d'être. Voilà. Enfin, il y a plein de modalités, mais ce qui est sûr. Je suis assez d'accord, c'est que les outils no-code permettent d'aller plus vite et de faire dans Airtable en même temps qu'on comprend le besoin et on peut vérifier si c'est un maker, on va dire, qui est assis à côté de quelqu'un qui vient plus des métiers, il peut faire, dire est-ce que ça correspond, tu testes et puis sinon, non, on rajoute des champs, etc. Enfin, vraiment ce truc, et ça vaut 10 000 cahiers des charges, quoi. Enfin, c'est...
Ouais, totalement.
Et après, vraiment. Est-ce que certaines personnes peuvent construire elles-mêmes ce dont elles ont besoin? Voilà, tout ça après, là, c'est en fait, pour moi, c'est une gamme un peu comme ça, c'est un spectre, en fait, où tout le monde est plus ou moins un petit peu maker, mais pas tout le monde ne peut aller mettre les mains dans Airtable, je pense. C'est un peu une illusion, quoi.
Totalement d'accord. Et sur le nom, c'est un vrai débat. C'est un débat aussi chez nous, parce que tu appelles comment ces personnes-là, donc c'est transverse, et pour que ce soit compréhensible de tous. C'est-à-dire que... Enfin bon, citizen developer, alors ce qui est fou, c'est qu'il y a même au final, j'ai le service exploitation qui recherche. J'ai vu, il m'a pas dit, il balance une offre citizen developer. Il l'appelait comme ça.
Ah ouais.
Mais je me dis non, oui, il recherche. Clément a dit non, il me faut quelqu'un. Je vais prendre quelqu'un. Il faut un stage en apprentissage. À 100% du temps, j'ai trop de sujets à faire, donc il l'a appelé comme ça. Mais par contre, c'est un vrai sujet en interne de personnes qui sont pas dans la mouvance no code ni tech. T'appelles comment pour que ce soit compréhensible? Pour le moment, on a un vrai débat, on les appelait référents IT, référents IT. Je déteste ça me semble tellement passif. Et on sait pas ce que c'est, on a l'impression que c'est une boîte aux lettres, mais du coup, il y a un enjeu de naming qui est important. Ouais.
Ça, c'est un vrai sujet. Non seulement j'ai pas la réponse, mais en plus, on y travaille. Et c'est un vrai truc, quoi. En plus, ça m'énerve un peu tous les titres qui sont en anglais. Mais bon, après, ça, c'est pas. Mais bon, je trouve ça un peu dommage qu'on n'arrive pas à trouver non plus des noms. Mais il y a le product builder qui s'impose un petit peu, mais ça désigne quelque chose. Nous, on est plus sur les sujets d'organisation, d'automatisation, d'ops, comment dire. Est-ce que c'est des opérateurs? Bon, ça fait un peu bizarre. On imagine des gens devant des centrales téléphoniques en train de plugger des câbles, quoi, de brancher des câbles. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends que Pôle emploi nous donne la réponse. Parce que si on attend Pôle emploi, malheureusement, on va attendre. Mais moi, j'attends le code ROM de Pôle emploi qui désigne un métier où c'est quelqu'un qui fait du Airtable et du Zapier et qui automatise. Et voilà. Après, ce que tu disais, en plus, n'est pas exactement forcément ce poste-là aussi, parce qu'il y a toute cette gamme, comme on disait, entre qui c'est qu'il y a la personne qui contacte des métiers, puis, enfin, voilà, il y a plein de choses différentes, mais c'est un vaste sujet. Franchement, bon, on pourrait continuer à parler pendant longtemps. Merci beaucoup vraiment pour cet échange, parce que là, vous nous avez livré, je pense, vraiment des choses hyper concrètes, vraiment que plein, j'espère, d'autres gens vont apprendre, enfin voilà, tirer des leçons là de tout ce que vous nous avez partagé. Vraiment un très beau cas d'usage, et j'espère que ça va se répandre aussi, cette fait de faire soi-même, d'être confronté un peu aux problèmes que vous avez eu. Peut-être que vous allez éviter à quelques PME ou start-up ou quelques boîtes. Donc ça servira au moins à ça. Mais voilà, moi je pense aussi que c'est pas forcément trop grave, quoi. Peut-être qu'il faut plutôt à 100 champs ou 200 champs appeler quelqu'un.
Ouais.
Mais aussi d'arriver aussi là, ça veut dire qu'on a construit des choses, quoi, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup vraiment un peu l'état d'esprit qu'on ressent là, que t'as partagé. Et je finirai sur un dernier truc, une petite, en fait, il y a un mot que t'as employé plusieurs fois, qui est le mot crocheté, que je trouve assez drôle. Et en fait, moi, ça me fait penser à un truc, c'est que dans le monde, en fait, des hackers, il y a le crochetage, c'est vraiment un art ancestral, un petit peu. Quand tu vas dans des conférences sur la sécurité, t'as toujours des ateliers où t'apprends à crocheter des serrures et tout. Et donc voilà, je trouve que encore une fois, ça montre un petit peu. Moi, je suis très attaché aussi à la réhabilitation du mot hacker, parce que tout le monde pense que c'est des pirates, je sais pas où. Hacker, à la base, c'est vraiment un état d'esprit, c'est de contourner. Notre nom vient de là aussi. Contourner les limitations et tout. Et voilà, et je trouve que là, dans tout ce que tu nous as décrit, il y a vraiment, c'est un peu cet état d'esprit, tu vois. Se dire, on fait les choses, on voit, on se met pas de frein. Et je trouve que c'est assez cool. Et donc, tu vois, même les mots que tu emploies font un petit peu ressentir.
C'est une coïncidence.
Ça.
Je suis heureux d'apprendre ça.
Bah écoute, voilà, c'est un. Mais je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Peut-être que c'est un. Tu vois, c'est l'état d'esprit est là.
Oui, non, par contre, ça reflète notre état d'esprit, c'est sûr. Parce que même sur tout ce qui ne concerne pas la partie tech, c'est quand même toujours notre état d'esprit de dire OK, il y a un problème là. Comment on arrive à trouver une solution à contourner ce problème?
Ouais. Super. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un endroit où vous documentez un petit peu tout ça, peut-être toi, Adrien, ou vous, je sais pas, alors j'imagine que vous n'avez pas forcément le temps. Quand je parle documenter, c'est pas forcément la documentation. Enfin voilà, ça, on a vu que c'était pas forcément, c'était un chantier que vous avez qui est planifié, mais peut-être plus de communiquer un petit peu sur un blog, un petit peu à la manière là de ce qu'on vient de faire là, un peu des Rex. Bah, t'as fait d'ailleurs une conférence du coup Web Today. Est-ce qu'il y a un replay de ça qui est disponible?
Il y a un replay. Je sais pas s'il a été mis sur YouTube. Je l'ai eu, on l'a demandé directement.
C'est à vous de le mettre.
Je vais le faire. Ça, on pourra dire. On va le diffuser. Alors, je pense que ce qu'on fera, c'est via LinkedIn.
Ouais. Regardez. Bah, si tu pourras, tu peux m'envoyer le lien, comme ça, je le mettrai dans les notes.
Ouais, top.
Mais tu vois, bon, bah, là, c'est ce qu'on fait aussi. Moi, j'aime bien avoir ce rôle aussi de documenter un petit peu justement tous ces cas d'usage. Mais je trouve qu'il y a plein de vertus aussi en tant qu'entreprise ou aussi que freelance de documenter des choses comme ça, pour aussi un petit peu montrer, quoi, partager. Comme on fait, on n'a pas toujours le temps. Je ne sais pas, toi, Adrien, c'est des choses que tu fais sur ton site ou des use cases, des trucs comme ça?
C'est des choses qui sont prévues, ouais. Mais comme pas mal de choses, mais je vais m'efforcer de poster sur LinkedIn.
Ouais.
Donc, Adrien Cressin, et je vais essayer de partager un peu plus les retours et de tout ce qu'on vit.
Tu as répondu à ma dernière question qui était où vous suivre et vous contacter. Donc LinkedIn plutôt pour toi Adrien, est-ce que tu es aussi sur Twitter
LinkedIn,
ou d'autres trucs?
Non, Adrien Cressin, je suis aussi sur Twitter plus en mode follower.
Ok.
Et voilà.
Et toi Grégoire?
Pareil, LinkedIn, que sur LinkedIn et Grégoire Papillon du coup.
Ok, et bah, je mettrai les liens et puis voilà, j'espère qu'il y a des gens qui vous contacteront. N'hésitez pas vous, auditeurs, auditrices.
Mais ouais, en plus... super friand du partage, comme on vient de le voir et comme j'écoute Grégoire et qu'on a vu avec le Web Today et tout ça. Nous, on adore partager, échanger avec des compères experts Airtable ou nos codeurs. D'ailleurs, je suis trop content. Je suis au No Code Summit la semaine prochaine, donc trop content d'y participer. Mais super friand de partager ça avec d'autres.
Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous peut-être. On verra dans un an, justement, pour continuer cette discussion et voir comment vous êtes passé à l'étape suivante.
Ouais. Merci, Alexis.
Avec grand plaisir. Merci pour l'invite. Ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment, je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à deux personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis deux pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.